Les millésimes d'Europe 1. Elena Noguera.
Un jour, une année, c'est le principe des millésimes. Tous les jours de l'été, entre 15h et 16h, je vous propose un voyage dans le temps. Et ça, grâce aux archives d'Europe 1, où il y a des trésors. Alors, comme chaque jour, je vous donne des indices. Donc aujourd'hui, c'est très facile, surtout que je vais prendre un ton comme ça. On prend la direction d'une année érotique. C'est aussi l'année où 500 000 festivaliers ont joyeusement pataugé dans la boue. L'année où le président de l'Olympique de Marseille s'est jeté dans le vieux port. L'année où on a marché sur la Lune. Vous l'avez reconnu, c'est 69, évidemment, année érotique, bien sûr. Bienvenue à tous, c'est Elena Noguera, je suis ravie de vous retrouver. Mettez donc votre combinaison spatiale, on décolle tout de suite.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
L'homme est à la Lune!
J'ai pas le peur en toucher. Le contact bleu s'est allumé sur le tableau de bord.
Tranquility, oui.
Vous entendez ici l'applaudissement.
Blue, we're bringing...
Exactement, à l'heure précise, le 20 juillet 1969, alors qu'ils étaient partis depuis 5 jours et que Collins tourne pour la 14e fois autour de la Lune, à 21h18, le module lunaire a touché la Lune.
Vous venez d'écouter ce document sublime qui est passé en direct sur Europe 1 dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. Et cette nuit-ci, cela fera exactement 52 ans que Neil Armstrong est entré dans l'histoire en devenant le premier humain à poser un pied sur la Lune. Un grand pas pour l'humanité.
Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ici, le sol est fin et poussiéreux. Je secoue une poudre bleue du bout de mon pied.
Cette nuit du 20 au 21 juillet 1969, très peu de Français dormaient. Ils vivaient tous au rythme d'Apollo 11. Certains veillaient devant leur télévision, d'autres sortaient de chez eux pour scruter la Lune. Et pour Europe 1, Jacques Tellier était allé discuter avec certains d'entre eux.
Est-ce que vous avez vu, vous attendiez à peu près à voir cela ou bien ça vous a très franchement...
J'avais aucune idée préconçue, je ne m'attendais pas à voir quelque chose de bien précis. J'avoue que la qualité me surprend, enfin, ça me paraît excellent. Enfin, ce n'est pas seulement de les voir marcher, c'est de savoir qu'ils sont là-haut. Quoi. C'est le plus grand événement de l'humanité depuis qu'elle existe, ou pratiquement.
J'ai 63 ans, mais je ne croyais pas le voir de mon vivant, je croyais le voir du haut du fauteuil là-haut.
Je trouve ça prodigieux, mais... J'ai l'impression que ça se passe exactement comme au cinéma. Il n'y a pas assez de suspense.
C'est à la fois monstrueux et familier.
À la fois monstrueux et familier.
Oui.
Familier parce que
ça a l'air facile et monstrueux à cause de la lenteur.
Question à trois points. Savez-vous combien d'astronautes ont marché sur la Lune? Bon, moi personnellement, si j'avais pas fouillé dans les archives d'Europe 1, je ne le saurais pas. Eh bien, sachez qu'ils sont 12 en tout à avoir eu cette chance. Et le dernier, c'était en décembre 1972. Bon, ça fait un bail tout de même. Mais il est question d'une nouvelle mission et elle est prévue pour 2024. 1969 est une année lunaire, mais c'est aussi l'année d'une autre révolution, la révolution sexuelle. Intéressant. En effet, c'est en 1969 que l'exploitation des films pornographiques commence à être autorisée dans plusieurs pays, notamment au Danemark, aux Pays-Bas et aux États-Unis, qui sont les premiers pays à se lancer dans cette nouvelle liberté. C'est aussi en 1969 que le besoin de liberté des minorités sexuelles s'exprime. En juin de cette année, lors d'une descente de police dans un bar gay de Greenwich Village à New York, la police blesse une drag queen lesbienne en tentant de l'arrêter. Alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Des dizaines d'homosexuels, de travestis, de transgenres et de transsexuels new-yorkais répondent en manifestant dans le quartier de Stonewall pour dénoncer l'homophobie. Ces émeutes de Stonewall seront le point de départ de la Gay Pride, la fierté gay en français dans le texte, créée un an après, en 1970. Pendant ce temps-là, en France, Serge Gainsbourg et Jane Birkin s'amusent à érotiser l'ambiance. L'année 69 est leur prétexte pour parler d'une position sexuelle, disons, coquine.
Gainsbourg et son Gainsborough ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
60 000 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années
69 années érotiques, et c'est aussi notre année du jour dans les millésimes d'Europe 1.
Elena Noguera.
Dans un instant, deux autres événements majeurs de l'année 1969, autrement dit, une démission et une première. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Elena Noguera sur Europe 1.
Les millésimes d'Europe 1, c'est jusqu'à 16h et aujourd'hui, on débouche le millésime 1969. En 1969, on marche sur la Lune et De Gaulle démissionne. Le 27 avril, alors que son référendum sur le projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat obtient un résultat négatif. Le président de la République fait alors porter un message au président du Conseil constitutionnel. Ce message est le suivant. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Alain Poher exercera la présidence par intérim jusqu'au 15 juin, date à laquelle Georges Pompidou sera élu deuxième président de la Ve République. Vous connaissez tous sans doute cette page de l'histoire de France. Mais saviez-vous que, dès le lendemain de sa démission, le général de Gaulle se retranche et s'enferme dans sa demeure de Colombelles-les-Deux-Églises appelée La Boisserie. Curieux, non ? Le 27 avril après-midi, il est encore président et le 28 au matin, il se coupe du monde, comme l'expliquait Maurice Bruzek sur Europe 1.
C'est à peine croyable, mais on a peine à imaginer que le général de Gaulle ait pu rompre aussi vite avec son passé qui ne date que d'hier. Redevenu de par sa volonté simple citoyen, il semble mener désormais la vie d'un paisible retraité. Mais n'est-ce sans doute qu'une apparence. En tout cas, nul ne le voit et nul ne peut le voir car il ne veut voir personne. Volontairement, il s'est coupé du reste du monde en protégeant sa tranquillité et sa solitude par un efficace cordon de garde mobile. Même en montrant patte blanche, il est impossible d'entrer. M. Sicurani, directeur du cabinet de M. Chaban-Delmas, en a fait l'expérience. Venu cet après-midi remettre au général de Gaulle une lettre du président de l'Assemblée nationale, il a dû finalement la faire porter à l'intérieur par un gendarme. En définitive, le général de Gaulle n'a reçu qu'une visite et qui a à peine duré le temps du « comment allez-vous ». C'était son beau-frère, Jacques Vendroux, qui est resté à la boisserie moins d'un quart d'heure.
Alors, petite précision, Jacques Vendroux n'est pas le beau-frère du général, mais l'un de ses petits-neveux par alliance. Quelques jours plus tard, après cette démission donc, le général de Gaulle et son épouse Yvonne sortiront de la boisserie pour se rendre en Irlande, sur la terre de ses ancêtres. Un séjour de 5 semaines qui va aller du 10 mai au 18 juin, date anniversaire de son appel qu'il célèbre alors pour la première fois à l'étranger.
Dans les circonstances importante de ma vie actuellement, c'est une sorte d'instinct qui m'a porté vers l'Irlande. Peut-être à cause du sang irlandais qui coule dans mes veines, on retourne toujours à ses sources. Et puis aussi parce qu'il s'agit de l'Irlande qui tient depuis toujours et aujourd'hui autant que jamais dans le cœur des Français.
C'est aussi cette année-là, quelques mois plus tôt, qu'a eu lieu le premier vol du Concorde. C'était le 2 mars 1969.
1 km 500 de piste maintenant, le nez commence à se lever maintenant, les roues n'ont pas encore quitté le sol, les roues quittent le sol, ça y est, Concorde s'élève maintenant, je vous laisse entendre le bruit.
Et oui, on a bien entendu.
Pour arriver à ce résultat, il avait fallu attendre 7h38 exactement sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. 7h30 d'incertitude, d'informations contradictoires, le brouillard, le vent, le plafond trop bas, tout semblait se liguer pour que le premier vol Concorde soit encore à jour.
Le premier vol du prototype du Concorde a duré 29 minutes et aux commandes, il y avait André Turca. Il fallut ensuite attendre 1975 pour que le premier certificat soit délivré. Et c'est seulement 7 ans après le premier essai, donc en 1976, qu'a eu lieu le premier vol commercial avec des passagers. Donc, c'était un Paris-Rio de Janeiro.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Nous sommes toujours dans les millésimes d'Europe 1. Un jour, une année, c'est le principe. Et cette année, c'est 1969. Que s'est-il passé cette année-là? Comment nos vies ont changé? C'est cette année, par exemple, que l'industriel Jacques Borel ouvre son premier restaurant d'autoroute. Vous vous souvenez? Sur la 6, les restaurants sur les autoroutes. Eh oui, Jacques Borel était à cette époque l'incarnation de la malbouffe. Et dans le film « L'aile ou la cuisse » de Claude Zidi, avec De Funès et Coluche, eh bien, c'est de lui, Jacques Borel, qu'il se moque. Il le pastiche sous le nom de « Tricatel ». Vous vous souvenez, non? Les poulets et les salades synthétiques sortis des usines.
Curriculum vitae, élève médiocre, HEC, meilleur vendeur dans une société d'informatique. À 30 ans, il se met à son compte et se lance dans un nouveau style de restauration.
J'ai 6 rendez-vous samedi.
Ok, samedi, ouais.
Seulement dans la vie, il ne faut pas être intelligent, il faut être pratique, c'est tout à fait différent. Les gens intelligents passent leur temps à avoir des idées. Les gens pas intelligents, quand ils en tiennent une, ils la réalisent.
Et vous savez juger de la qualité de la cuisine?
Un peu. J'ai été chef de cuisine pendant 6 semaines.
Il avait une belle gouaille, Jacques Borel. Eh bien, il a eu aussi énormément de succès avec ses restos d'autoroute. Il prétend que son record est d'avoir accueilli en l'espace de 24 heures jusqu'à 14 238 clients dans l'un de ses restoroutes. En 1969, c'est aussi l'année de l'ouverture du RER A, qui est la ligne la plus fréquentée du réseau francilien avec plus de 300 000 voyageurs par an. Ça a bien changé depuis, mais les tout premiers voyageurs du RER avaient été accueillis le 12 décembre 69 en musique.
Bien sûr, il a fallu beaucoup de temps pour le construire, trop, disent certains, et pas mal d'argent aussi, mais le résultat en vaut quand même la peine. D'abord, il y a de la musique, et les personnalités qui l'ont inauguré ce matin ont été accueillies à la station Nation par les violons de Vivaldi. Le directeur général de la RATP, M. Veil, vous l'imaginez bien, ne cachait pas sa satisfaction.
C'est un grand jour, surtout pour la régie, bien sûr, mais encore plus pour la Parisien et les gens de la région de l'Est de Paris.
De même que M. Raymond Mondon, le ministre des Transports.
C'est très bien, on avait dit que c'était luxueux, c'est très correct, c'est très agréable. Et je crois qu'il y fait meilleur vivre et passer que dans les autres stations de métro, c'est un progrès incontestable.
En 1969, on ne parle pas encore de RER, mais de métro régional. Et en 69, il ne fait que relier Nation à Boissy-Saint-Léger. Alors qu'aujourd'hui, le RER A compte 34 stations de plus qu'au moment de son lancement. Autre avancée de cette année 69, les enfants n'ont plus école le samedi après-midi. Youpi. En 1969, on passe aussi de 30 heures d'école par semaine à 27. Le 12 septembre 1969, le président de la Fédération des parents d'élèves, Pierre Armand, s'en félicite sur notre antenne.
Nous pensons que ce repos le samedi après-midi est une bonne chose pour l'équilibre des enfants. Mais, il est indispensable qu'un service d'accueil soit organisé pour les enfants qui ne peuvent être gardés chez eux, pour les parents qui travaillent. On ne peut pas laisser les enfants dans la rue, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible, ni seuls chez eux.
Et les enfants, ils en pensent quoi ? On les a aussi entendus sur Europe 1 en septembre 1969.
Moi, je suis contente, il n'y a pas d'école, je m'amuse. Ma maman est en train de faire les commissions et mon papa, il est en train d'arranger la voiture.
Tu es tout seul chez toi aujourd'hui ?
Non, j'ai mon frère avec moi.
Ton frère, quel âge il a ?
14 ans.
Je vais apprendre mes devoirs et je vais m'amuser.
Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disent ?
Ils disent que ce serait mieux d'aller à l'école. Je suis pas d'accord.
Je vais aller chez ma grand-mère parce que maman travaille.
Et votre maman, elle est contente que vous soyez en congé un samedi après-midi ?
Non, parce que ça la dérange d'aller me conduire chez ma grand-mère.
Et votre papa ?
Il travaille pas, il est parti à la pêche.
Le rythme scolaire a encore évolué depuis. On a perdu 3 heures depuis 1969. La semaine scolaire d'aujourd'hui est fixée à 24 heures d'enseignement. Eh oui, tout part à volo. Comme je vous le disais tout à l'heure, Pompidou succède à De Gaulle après qu'il ait démissionné. Et le nouveau Premier ministre est Jacques Chaban-Delmas. Le 16 septembre, soit 3 mois après avoir été nommé à son poste, celui-ci prononce un discours resté célèbre. Un discours censé donner la ligne directrice du septennat du nouveau président. Pour lui, en 69, on doit commencer à bâtir une nouvelle société.
Cette nouvelle société, quant à moi, je la vois comme une société prospère. Jeune, généreuse et libérée. Rien de tout cela ne sera possible sans un vaste effort d'imagination et d'organisation dans tous les domaines, visant à la fois l'éducation permanente et le libre accès à l'information, la transformation des rapports sociaux et l'amélioration des conditions et de l'intérêt du travail, l'aménagement des villes et la diffusion de la culture et des loisirs. Quelle exaltante entreprise!
L'histoire raconte que Pompidou n'aurait pas aimé le discours, mais Chaban-Delmas restera quand même à Matignon 3 ans. Édouard Balladur, l'un des successeurs de Chaban-Delmas, commentera quelques années plus tard, je cite, « Chaban était fondamentalement de la 4e République. Il n'avait pas compris que dans la logique de la 5e, c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation et non le Premier ministre. »
Elena Noguera.
Dans un instant, Peace and Music, direction Woodstock et tout ce qui a fait l'actu musical de 1969. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Tous les jours de l'été, entre 15h et 16h, on revit une année et son actualité politique, culturelle, sportive ou musicale. Eh bien tiens, justement, notre année du jour, l'année 69, n'a pas été qu'une année érotique ou qu'une année de voyage dans la Lune. Musicalement, ce fut aussi une année folle. Tout d'abord, en juillet, Brian Jones, l'un des fondateurs des Rolling Stones, est retrouvé mort dans sa piscine du sud-est de l'Angleterre. Il avait 27 ans. Plus de 50 ans après, les circonstances de sa mort demeurent floues. 2 jours plus tard, à Londres, les Stones donnent un concert à Hyde Park en hommage à Brian Jones devant 50 000 personnes. Gilles Schneider était sur place pour Europe 1 et sa description de l'ambiance qui règne ce soir-là à Hyde Park vaut le détour.
Tout à l'heure, ces jeunes, très anticonformistes, tout au moins par leur tenue, on fait une minute de silence à la mémoire de Brian Jones. Il y a là des jeunes gens de tous les milieux, des intellectuels, des ouvriers. Ils se sont déguisés, soit en rockers, soit en hippies. Le service d'ordre est fait par les rockers, ces jeunes gens qui sèment un peu la terreur sur les plages Angleterre l'été. avec leurs blousons de cuir noir, sur lesquels il y a des clous. Ils portent tous des casques allemands, des casquettes de SS. Ils font le service d'ordre et ils jouent un peu aux infirmiers. Certains veulent singer ici les gens de la City, alors ils portent des chapeaux melons avec des plumes. Certains sont déguisés en Mexicains, d'autres portent le maillot de leur équipe préférée de football. Il y a beaucoup de filles, elles sont en mini-mini-mini-mini-jupe. J'ai même vu des filles qui sont toutes nues. Il y a beaucoup d'évanouissement dans la foule parce qu'il y a la chaleur, bien sûr. La plupart des hommes sont d'ailleurs maintenant torse nu. Et ils portent des colliers. Ils ont la figure peinturlurée comme les Indiens d'Amérique. Mais dans la foule, il y a aussi des gens qui ne fument pas que des cigarettes. Il y a des gens qui en ont profité pour se droguer. Et il faut les sortir, les emmener rapidement.
50 000 personnes étaient attendues du 15 au 17 août 1969 pour le festival de Woodstock. Au départ, le festival de Woodstock aurait dû avoir lieu à Woodstock, ville où Bob Dylan vient de s'installer. Mais 30 jours avant l'événement, la municipalité refuse. Les organisateurs, Woodstock Venture, doivent alors délocaliser le festival dans un champ de la ville de Bethel, à 96 km de là. Mais ils ont conservé le nom de Woodstock. Comme une traînée de poudre, la nouvelle d'un concert auquel participent Janis Joplin, John Baez, The Who ou Jimi Hendrix se répand. C'est alors que des dizaines de milliers de jeunes s'y rendent en voiture, occasionnant ainsi des embouteillages monstres. Au final, il y aura des embouteillages de maboule et non pas 50 000 spectateurs, mais 500 000. Il y a trop de monde, il n'y a pas assez de sanitaires, il n'y a pas non plus assez à manger, ni d'eau. Toutes les drogues du monde circulent, ce qui peut être un peu dangereux dans une fête d'un demi-million de personnes. Et enfin, il pleut pendant 3 jours, ce qui transforme le terrain en marécage. En fait, ce festival aurait pu être un énorme fiasco, mais les organisateurs ont su trouver des solutions à tous les problèmes, en faisant notamment livrer des sandwichs et du riz. En revanche, ils ont fini endettés jusqu'au cou, car en voyant l'affluence, certains artistes ont voulu négocier leur cachet à la hausse. Les organisateurs ont réussi à trouver l'argent pour les satisfaire, mais leur dette, après ces 3 jours, s'élèvera à 1 300 000 dollars.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you doing?
Say Something that happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad.
How will you help my pain?
Don't you know I'm gonna make it with my friends?
How will you help my pain?
I promised myself I'd get by.
How will you help my pain?
Said I'm gonna try it with a tool.
Vous venez d'entendre l'une des plus grandes voix de l'histoire de la musique, sans doute, Joe Cocker, vous l'avez reconnu. Il n'avait que 25 ans en 1969, lorsqu'à Woodstock, il a repris cette chanson des Beatles en ouverture de la troisième journée du festival. C'était le 17 août 1969.
Elena Noguera.
En 1969, le mouvement hippie est à son apogée. Et un film sorti cette année-là devient l'emblème de ce mouvement. On en parle dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Libres et sauvages, Peter Fonda et Dennis Hopper allaient à moto sur les routes des États-Unis. Le terme culte a souvent été galvaudé, mais pour qualifier Easy Rider, c'est le mot juste. Ce road movie l'est culte. Et pourquoi ? Eh bien, un, parce qu'il peut être vu comme un documentaire sur cette période charnière du XXe siècle où entre 1967 et 1970, tout a basculé. Et deux, parce qu'il lance le nouvel Hollywood. Après 10 années difficiles, le cinéma américain revient en force en s'inspirant du néo-réalisme italien et de la nouvelle vague française. D'ailleurs, le saviez-vous ? Dennis Hopper a toujours dit que c'est en voyant le road movie de Dino Rizzi, Le Fanfaron, avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, qu'il a eu l'idée de faire un road movie. Un film d'errance, de voyage, décrivant le périple de personnages souvent en lutte avec leur environnement et les conventions.
Born to be wild.
Les films hippies de cette année 1969 sont loin d'idéaliser le mouvement hippie. Il ne s'agit pas de montrer naïvement des jeunes gens aux cheveux longs et vêtus de tuniques indiennes prenant des drogues hallucinogènes dans un climat de peace and love. Dans Easy Rider, le rêve hippie est noirci par la mort des deux héros. Bon, je spoil un peu, c'est vrai, mais quand t'es filmé bien, on peut le faire. Idem dans cet autre film culte de 1969, Macadam Cowboy. L'histoire, portée par l'insouciance de cette vibe hippie, un jeune Texan à la gueule d'ange quitte son bled pour aller faire le gigolo à New York où il n'a encore jamais mis les pieds. Totalement hors sujet avec ses bottes, son chapeau et sa veste à franges, il ne concrétisera pas vraiment son objectif et va se retrouver à partager le taudis d'un estropié italien dans un immeuble insalubre du Bronx.
Alors, pourquoi que t'en as pas encore levé une seule depuis que t'es à New York, hein ?
À cause qu'il me faut un manager, sacré bon Dieu !
Allons-y. Hé, stop ! Et les piétons alors ? Mais tu les vois pas, tes mirons ? Écoute, Joe, fais-toi régler en liquide, ces dames riches te foutent un chèque et le lendemain elles disent à la banque qu'on le paye pas !
Tu voulais me piquer du pognon ?
Ah oui, madame, je ne plaisante pas.
Tu voulais du pognon pour ça ? Mais oui, bien sûr.
Espèce de gros taureau texan biscornu.
Aucune femme riche ne se laisse prendre à cette saloperie de cowboy à présent. Toutes se foutent de toi dans la rue.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Ce film est à ce jour le seul film classé X à avoir remporté l'Oscar. Mais malgré cette classification X, le film a été un succès partout dans le monde, y compris en France. François Chalais en avait dit beaucoup de bien sur Europe 1 le 17 octobre 1969.
Aux États-Unis, c'est de la frénésie. Tous les records de recettes sont battus. À Berlin, les salles debout applaudissent. Et à Londres, aujourd'hui, Macadam Cowboy investit la France et tout se présente comme s'il s'agissait d'un phénomène aussi ravageur qu'une invasion de Martiens un jour où les radars seraient en panne. Que se cache-t-il donc derrière ce titre raccrocheur? Une petite indication au bas de la publicité nous met sur la voie, interdit aux moins de 13 ans. Ne vous y trompez pas cependant, Macadam Cowboy est un grand film. L'art du réalisateur John Schlesinger et surtout celui de ses interprètes, un inconnu John Voight et Dustin Hoffman, celui du lauréat, est souvent remarquable et le résultat en est déchirant.
John Voight, qui est le papa d'Angelina Jolie, et oui. En France, 1969 est l'année Jean-Louis Trintignant. Cette année-là, il passe une nuit chez Maud, devant la caméra d'Éric Rohmer, et tient le rôle d'un implacable juge d'instruction mettant son nez dans un complot politique dans Z de Costa Gavras.
Dites-moi, lorsque la victime a été renversée, est-ce que sa tête a pu heurter le bord du trottoir ?
Pas du tout, ça s'est passé presque au milieu de la chaussée.
Vous en êtes certain ?
Tout à fait certain. Mais pourquoi toutes ces questions, si vous permettez ? Vous parliez d'un trait nouveau.
Selon les résultats de l'autopsie, il serait mort des suites d'un coup de matraque.
Quoi, un coup de matraque ? Mais donc, où se mêlent-ils, ces médecins ? Pourquoi ont-ils fait une autopsie ?
J'ai ordonné l'autopsie, c'est la procédure légale.
Ah, cette voix ! Pour sa prestation dans le film, Jean-Louis Trintignant a obtenu un prix d'interprétation à Cannes, où il ne s'est pourtant pas rendu cette année-là. Le discret et romantique Jean-Louis s'était expliqué à ce sujet sur Europe 1 le 24 mai 1969.
Vous allez être curieuse, Jean-Louis Trintignant. D'abord, il jouait dans Z, puis il était dans, je sais pas combien de films sélectionnés à Cannes ?
Trois.
Toujours est-il qu'il se retrouve à Paris, s'il est superstitieux ou pas, j'en sais rien, toujours il n'était pas à Cannes, il n'est peut-être pas mondain d'ailleurs, et qu'il est Grand Prix d'interprétation masculine à ce Festival de Cannes 1969, Jean-Louis Trintignant, qui est avec nous aujourd'hui à Paris. Vous l'avez appris comment ?
J'ai regardé la télévision comme tout le monde et j'ai entendu mon nom, ça m'a un peu surpris.
Vous n'écoutez jamais la radio, écoutez, vous êtes sévère avec vous, la télévision comme tout le monde.
Non, c'était retransmis à la télévision en direct. Tête. Et alors, je l'ai entendu comme tout le monde et ça m'a un peu surpris. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je n'ai absolument aucun sens de... Je ne suis absolument pas une bête de publicité. Je me trompe tout le temps. Par exemple, j'ai eu un prix l'année dernière aussi à Berlin, au Festival de Berlin, prix d'interprétation, et je n'étais pas là. Et c'est vraiment étonnant parce que je ne le fais pas exprès. Je voudrais, moi, m'occuper de ma publicité. Enfin, je ne voudrais pas m'en occuper spécialement, mais je voudrais y être. Et je n'arrive jamais à faire ce qu'il faut faire. Je crois que si je faisais de la politique et que je sois élu président de la République, je m'arrangerais sans le faire exprès pour que personne ne le sache.
Jean-Louis Trintignant, magnifiquement spécial.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Nous sommes toujours dans les millésimes d'Europe 1 et nous allons finir ce millésime 1969 qui est notre année du jour cet après-midi. Et nous allons la finir en musique et aussi sur les terrains de sport. Alors, le sport d'abord. En 1969, le Belge Eddy Merckx remporte son premier Tour de France. La Coupe de France de football revient à l'Olympique de Marseille de Jean Djorkaeff qui s'impose 2-0 face à Bordeaux en finale au stade Yves du Manoir de Colombes. C'était la première victoire de Marseille en Coupe de France depuis les années 40. Après ce sacre, Michel Drucker, qui était déjà là, avait interviewé les vainqueurs.
D'abord la parole au capitaine, Jean Djorkaeff, c'est un grand jour. Vous aviez déjà gagné la coupe avec Lyon et contre Bordeaux. C'est une équipe qui vous va bien.
Oui, pour l'instant, oui, très bien.
Mario Zatelli, l'entraîneur.
Le plus dur, c'est le retour.
C'est le retour demain. Et je pense aussi à mon président qui avait dit que s'il gagnait la Coupe de France, il se jetterait tout habillé dans le Vieux-Port. Et croyez-moi, s'il ne le fait pas, on va se charger de le balancer nous-mêmes dans le Vieux-Port.
Eh bien, sachez que Marcel Leclerc, président de l'OM, s'est bel et bien jeté dans le Vieux-Port. Il a donc tenu sa promesse. On peut d'ailleurs trouver les photos facilement sur Internet, mais il n'était pas tout habillé. Place à la musique maintenant. Pendant que l'homme marchait sur la Lune en juillet 1969, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique ? Let the Sunshine In, Wallace Collection, Daydream, Johnny Hallyday, Que je t'aime, et bien sûr Gainsbourg et Birkin, Je t'aime, moi non plus. Parmi les tubes de l'été 1969, il y a également ce morceau qui a été joué le 17 août au festival de Woodstock par le groupe Blood, Sweat and Tears et écrit et composé par son chanteur, le Canadien David Clayton Thomas. L'album dont est extrait ce tube a obtenu cette année-là le Grammy Award du meilleur album devant l'Abbey Road des Beatles. Et oui, ce tube, c'est Spinning Wheel, cocktail rock, jazz, bien frappé. On écoute ? Spinning Wheel, qui veut dire la roue tourne.
Elena Noguera.
Et demain, la roue du temps nous emmènera à l'année de la dernière victoire d'un Français au Tour de France. C'est l'année où nos numéros de téléphone se sont rallongés pour passer à 8 chiffres et aussi l'année de Marcia Baila. Allez, on se retrouve demain. Je vous laisse pour l'instant avec Stéphane Bern et Mathieu Noël qui vont reprendre le relais dans un instant avec Historiquement Vôtre. Allez, bon après-midi sur Europe 1 et à demain, vous allez me manquer.
Elena Noguera sur Europe 1.